Ils n'écrivaient pas n'importe quoi, n'importe comment. Ils avaient déjà des manières d'écrire. Et donc intentionnel. Donc il faut essayer de découvrir les intentions de ces textes. Deuxièmement, ils n'entendent absolument pas faire une description objective du passé. Ça ne les intéresse pas. Mais ils veulent, par des récits placés dans le passé, ils veulent inviter les gens à évaluer et à interpréter leur propre histoire du présent. Ça, c'est un deuxième critère important sur la manière d'écrire des gens d'Israël. Troisièmement, il s'agit toujours d'un examen de la situation actuelle à partir de principes moraux, éthiques. Il y a toujours une volonté éthique là derrière. Quatrièmement, ces textes ne sont pas des travaux d'une personne, mais d'une communauté. Peut-être que c'est une personne qui a écrit, mais ils rapportent au fond ce que vivait une communauté. Et finalement, ces textes sont écrits de telle manière qu'ils approfondissent la conscience nationale, la conscience du peuple, pour en fabriquer en quelque sorte une unité. Ce sont des textes unificateurs. Voilà un petit peu comment il donne ses conclusions à ce sujet. Et lui, met comme premier texte en droit, en fait, non pas J, non pas E, non pas J, mais D. Pour lui, c'est le Deutéronome. Tout est construit là-bas. Attention, pas le Deutéronome peut-être tel quel, non, mais l'histoire deutéronomiste, qui commence à la fin du Deutéronome et qui va jusqu'au deuxième livre des rois. Josué, Juge, 1 de Samuel et 1 de Roi. Donc il renverse un petit peu la situation, d'après son analyse des textes. Et puis, il dit que ce que nous appelons J et E aurait servi finalement de prologue, à ce document qui viendrait de l'époque de Josias. Donc à l'époque de Josias, et nous sommes évidemment au 7e siècle, donc sous l'emprise des prophètes, et donc tout cela supposerait au fond l'intention des prophètes. Et tous ces textes aurait été en quelque sorte composé et amalgamé sous la motion des prophètes. Et donc, il le dit, il faut prendre en compte la littérature comme un reflet de l'époque dans laquelle elle a été écrite et non pas comme une preuve des événements du passé. Mais ce texte, et notamment cet unificateur qui s'appellerait D, le théronomiste, il a une thèse. C'est que Dieu sauve l'histoire humaine. C'est que tous ces textes veulent montrer comment Dieu prend en charge l'humanité. Et comment il bénit. Le thème de la bénédiction qui vient à partir d'Abraham. Et donc, il y a une sorte d'unification dans la tête des gens entre le Dieu créateur et le Dieu provident ou rédempteur. Le Dieu qui continue d'assumer l'histoire. Non seulement il met la création en route, je dis la création, donc c'est Dieu qui la donne, non seulement il la met en route, mais il accompagne l'histoire des hommes et il y est présent. Ça, vous voyez bien là, il y a une théologie prophétique. Et alors, il nous dit que l'apôtre sert précisément à raconter notre histoire à partir de l'histoire des anciens. Pourquoi? Parce que ce que nous vivons, d'autres l'ont déjà. déjà vécu avant nous. Et ils nous ont transmis une expérience. Et donc, quand nous vivons les choses, nous les vivons à la lumière de l'expérience des anciens, mais pour bien vivre notre aujourd'hui. Donc le texte est un texte actuel. Ce n'est pas un texte du passé, c'est un texte d'aujourd'hui. Et alors, on s'intéresse de très près au libellé des trois codes de loi. Le code de l'alliance, du document J, le code de Théronomie, du document D, et le code sacerdotal, du document P. Y a-t-il une évolution dans la loi? Comment peut-on dater? On peut dater dans l'histoire juridique du Proche-Orient ancien, on peut dater à certaines époques l'émergence, par exemple, de la responsabilité personnelle. Ou bien l'évaluation des choses et des personnes. On peut faire une histoire du droit. Et ils font tout ça. Et ils travaillent aussi la figure des différents personnages dont on parle. Voilà donc tout le travail produit par M. John Van Sitters, qui s'interroge sur l'histoire vue à travers l'historiographie, l'histoire vue à travers la manière de la raconter. Bon. Puis il y a en Allemagne Hans Heinrich, Schmitt, beaucoup de forgerons en Allemagne, autant de beaucoup de Schmitt, de Schmitt, etc., qui s'intéresse, lui, davantage aux der sogenannte Jahwist. Regardons un petit peu ce texte que vous appelez Jahwist, où l'on parle de Dieu comme du tétragramme divin. Il analyse les textes, le vocabulaire, les thématiques, la théologie, et du même. Il travaille indépendamment de 26 personnes. Il dit, mais tout ce texte de J, il suppose les prophètes. Donc, ils viennent certainement après le 8e siècle, l'apparition des prophètes. Et même le thème de l'Alliance. Qu'est-ce qui a découvert ce thème de l'Alliance? C'est osé. Et ils ont un petit texte d'Osée qui regarde sous toutes ces coutures, et un texte extrêmement bizarre sur lequel nous aurons encore à revenir, parce qu'il y en a un autre qui va s'y intéresser. Je vous le lis toujours, c'est au chapitre 12e du livre d'Osée, un chapitre que l'on a vraiment du mal à situer, et qui nous parle de la perversion à la fois spirituelle et politique d'Israël. Israël, c'est le royaume du Nord, qu'on appelle aussi Ephraïm. Ephraïm m'entoure de mensonges, et la maison d'Israël de tromperies. Mais Juda est encore auprès de Dieu, au sein il reste fidèle. Ah là, il y a une concurrence entre le Nord et le Sud, les deux royaumes. Se situe donc à un moment où les deux royaumes existaient, donc bien loin après Salomon. Ephraïm se repaît le vent, tout le jour il poursuit le vent d'Est, il multiplie mensonges et faussetés, on conclut alliance avec Assour, on porte de l'huile à l'Égypte. Tiens, tiens, à quoi fait-on allusion? Le Seigneur, c'est Yahvé dans le texte, est en procès avec Juda. Il n'y a pas qu'Israël qui fait des malversations, Juda aussi. Il va sévir contre Jacob selon sa conduite et lui rendre selon ses actions. Dès le sein maternel, Jacob, il supplanta son frère, Ésaü. Dans sa vigueur, il fut fort contre Dieu, tiens. Il fut fort contre l'ange et l'emporta. Il pleura et l'implora son frère. D'abord l'ange, puis son frère. À Bethel, il le rencontra, Dieu, l'ange. c'est là qu'il parla avec nous. Tiens, donc on met en évidence la tromperie de Jacob et puis la grâce faite à Jacob. Tiens, curieux texte. Et puis on va un peu plus loin. Je suis le Seigneur Yahvé, ton Dieu, depuis le pays d'Égypte. Je te ferai encore habiter sous les tentes, tu continueras à habiter sous les tentes, comme au jour du rendez-vous. Je parlerai aux prophètes, moi je multiplierai les visions, et par le ministère des prophètes, je parlerai en parabole. Pas étonnant, dit Schmitt, pas étonnant. Le Deutéronome présente toujours Moïse comme un prophète. Donc il suppose le prophétisme. Est-ce que Moïse a existé maintenant, hein? Vous voyez la question. Alors, après avoir analysé tout cela, il montre par exemple que le récit de la vocation de Moïse, chapitre 3, de l'Exode, est copié sur le récit de la vocation de Jérémie, chapitre 1 de Jérémie, et chapitre 2 d'Ézéchiel et la vocation d'Ézéchiel. Alors qu'on croyait que c'était le contraire, maintenant on voit qu'ils dépendent de textes de vocation prophétique. Et il a un disciple qui s'appelle Martin Rose, et il continue le travail. Ils disent, les textes de J supposent déjà le document du Deutéronome. Donc ils renversent le petit schéma tel qu'il était affiché dans les mémoires. Puis vous avez un troisième personnage qui vient aussi encore d'Allemagne, c'est Rolf. Et qui a un livre qui s'intitule Das überlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch, c'est-à-dire le problème de la tradition du texte du Pentateuch. Il se dit que toute cette théorie documentaire est très fragile. Elle repose sur des hypothèses qui ne sont pas encore suffisamment approfondies. Et lui dit, non, il y a un problème de mémoire qui ont constitué petit à petit des unités. Et ces unités ont agglutiné toutes sortes de légendes, de récits, de différents personnages. Et nous avons cinq points, cinq thèmes fondamentaux qui ont été au départ de la constitution de l'histoire d'Israël. C'est le problème A, le problème des origines. On le trouve dans toutes les religions du Proche et du Moyen-Orient. D'où vient-on? D'où vient l'humanité? C'est un produit de Dieu ou autre chose? Deuxièmement, l'histoire des patriarches. Quand on n'était pas encore ce qu'on était, autrement dit, quand on était encore nomade, on n'était pas encore sédentaire, qu'est-ce qui se passait? Vous voyez, il y a un problème de mémoire. D'où venons-nous? Histoire, origine des origines, patriarche. Mais nous sommes des gens libres, hein, en Israël. Nous sommes des gens libres. Et la liberté nous a été donnée par Dieu. Donc, libération. Ah, si on est libre, c'est qu'on a été libéré. Libéré de quoi? De l'esclavage, parmi. Hein, dans des pays où l'esclavage existe, c'est bien de cela qu'il faut être libéré. Donc, on a été libéré de l'esclavage. Quel est celui qui prend les esclaves? Surtout, c'est l'Égyptien. Donc, libération d'Égypte. Oui, mais, attention, pas seulement liberté intérieure, mais pas seulement liberté extérieure, mais liberté intérieure. On a une loi, nous. On a une loi. Et la loi est libératrice. Donc, histoire des origines, patriarche, d'où on vient, libération d'Égypte, don de la Torah au Sinaï, et entrer dans un pays. Chacun désire un pays. C'est tout à fait normal. Et donc voilà, il dit voilà cinq points autour desquels se sont agglomérés beaucoup de gens. Mais quand on les agglomère, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des légendes, ce sont des récits anciens. Quand on dit légendes, on ne dit pas nécessairement des fables. Hein? Quand on dit légendes, c'est-à-dire des traditions. Des approximations populaires de la vérité. Mais ce sont des approximations populaires. Il faut les transmettre dans des petites histoires. On retient mieux les histoires. Et donc, autour de cinq thèmes, il y avait une première tribu, ou quelques tribus, celles qui ont un souvenir d'avoir été en Égypte, celles du Sud, puis d'autres tribus se sont ajoutées, et chacune apportait évidemment ses histoires. Et quand on se mettait d'accord, quand on faisait un contrat social, on le faisait avec les histoires qu'on apportait. Et puis on a unifié ces histoires. On les a unifiées hein, selon le temps. Et comment unifie-t-on une histoire selon le temps? Le grand-père, le père, le fils, le petit-fils. On en a fait des généalogies. Abraham. Jacob, ou bien Israël, si vous voulez bien, hein? On va vous expliquer comment Jacob est devenu Israël. Et donc, vous voyez, on a formé une généalogie alors qu'il s'agissait, mais c'est pas faux, hein, de faire une généalogie, parce qu'il y a une unité qui travaille, mais on a fait une généalogie alors qu'il s'agissait d'unité qui se faisait petit à petit entre des tribus diverses, des familles diverses. Et à ce cycle patriarcal, qui remonte dans nos mémoires, on a ajouté, ce qui est typique pour Israël, l'histoire de la libération du peuple. Et alors, il y a l'élève, Erhard, Blum, élève de Reldorf, qui a continué, qui a encore approfondi les choses, il a fait aussi un travail, une étude sur la composition du Pentateuque, et lui, il en est arrivé à cette conclusion. Bon, il y a eu hein, des groupements qui se sont faits petit à petit. Et notez que pour les évangiles, ça a été à peu près pareil, des groupements autour de thèmes, de thématiques. Mais il va plus loin. Il dit finalement, ah, pendant l'exil, juste avant, pendant l'exil, et après, il y avait en Israël deux courants importants, deux courants idéologiques, deux courants traditionnels, d'où deux rédactions parallèles, mais qui viennent d'après l'exil. Une rédaction en gros de D, et une réaction en gros de P. Une sorte de concurrence entre deux courants de la population. Et il va vous parler de la composition deutéronomiste, D, qu'il va appeler composition des Deutéronomius, donc KD, et il va parler de KP Composition der Priesterkodex, du Codex sacerdotal. Ah, intéressant ceci. Intéressant. Parce que nous avons deux lignes dans la tradition d'Israël. C'est effectivement présent. La composition sacerdotale, c'est-à-dire cléricale, nous dirions aujourd'hui, mainmise des prêtres sur la politique, sur la société. Et une tradition plus socialiste, dirions-nous aujourd'hui. Plus de gauche. Qui serait composition des deux terrains. Et donc il fait avancer l'histoire en montrant bien que cette situation-là est une situation de pendant, après l'exil. Et donc il dit que l'intention de ce texte, de cette tradition du Deutéronome, est adressée aux exilés. Elle reprend l'histoire des patriarches plus l'histoire de l'Exode, qui sont deux piliers de la relation, et qui montrent que malgré les vicissitudes de l'histoire, Dieu reste présent à son peuple. La question de l'exil était importante. Hein. Est-ce que Dieu va nous rejoindre en exil? Ou bien est-ce que c'est une punition? Et ça, c'est une question importante d'après l'exil. Et l'intention de l'autre document, composition plutôt sacerdotale, serait une reprise du premier, mais avec des additions. Avec une insistance sur le culte, sur ce qui va faire l'unité du peuple, sur les institutions culturelles et politiques. Après que tous ces messieurs aient écrit aux environs des années 70, 75, etc., déjà un petit peu avant et encore un petit peu après, réaction violente de tous ceux qui tenaient évidemment à la théorie documentaire classique. Ça le déstabilisait complètement. Ça m'est arrivé aussi, moi j'ai enseigné cela pendant 30 ans. Et puis tout d'un coup, on me dit tout ça, ce n'est pas aussi clair que vous pensiez. Alors. Donc, nous nous trouvons maintenant devant deux récits concurrents. Deux récits concurrents. Deux histoires. Une histoire populaire avec les mères, les anciens, hein, les ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, une histoire populaire, de type généalogique. Et puis, agglomérée à cette histoire, une histoire prophétique. Moïse, prophète du Dieu, et leader du peuple qui le mène à travers le désert, le rien du tout, qui le mène à la découverte de Dieu et de sa loi intérieure. Et on voit bien dans le texte d'Osée que je vous ai repris tout à l'heure, dans le chapitre 12e, que cette concurrence est présente entre ces deux types d'histoires. On dévalorise en quelque sorte Jacob pour mettre en évidence Moïse, le libérateur du peuple. Et donc, celui qui a légué la loi à Israël. Prophète, pasteur. Et voyez, ces deux textes répondent à la question des gens qui ont passé à travers l'exil. Pourquoi suis-je dans ce pays? Pourquoi y suis-je revenu? Ah, parce que je descends d'un ancêtre qui a reçu sa terre de Dieu, donc terre intouchable. Sacerdotal, c'est encore vrai aujourd'hui en Israël, hein, le Gush Emunim, ou bien les implantations. C'est ça, on a reçu la terre, on ne la partage pas, hein. C'est un cadeau de Dieu, donc on doit le maintenir. Ou bien, ça c'est la tradition sacerdotale, ou bien contre sa tradition. Jésuite, ah, parce qu'il y a un prophète pasteur qui a mené mon peuple. Il a mené sur cette terre. Donc, cette terre m'est donnée en cadeau, donc je peux la partager. Et vous avez les deux théories que vous trouvez aussi en Israël aujourd'hui. La théorie de la droite, qui ne veut pas partager la terre, pas de place pour les Palestiniens. Et la théorie de la gauche, qui dit, ben, nous l'avons reçue, on peut donc la partager. Partageons-la, négocions. Mais comme il y a des trajectoires dans l'histoire qui se répètent. Alors on peut comprendre que Josias, 622, réforme le culte, le centralise. Mais on se trouve justement dans cette mentalité à la fois du culte centralisé et de la désacralisation de tout le reste. Il y a une sorte de séparation déjà entre le sacré et le commun. Et donc, le texte du Pentateuque aurait été un amalgame, une mise en commun de deux traditions différentes et quelque peu antagonistes. Alors, vous voyez que le problème se pose. Alors, pourquoi le texte les a-t-il mis ensemble et n'a-t-il pas unifié parfaitement l'histoire en prenant position, soit pour les prêtres, soit pour le peuple? Pourquoi? D'où ça vient? Vous voyez comment hein, la recherche fonctionne. Alors, les gens vont voir, ben, à l'époque où ça a été construit, c'est quand? Ça où ça a été écrit, c'est quand? Après l'exil. Époque perse. Allons regarder la manière dont les Perses travaillaient. Et on va regarder la manière dont les Perses travaillaient. Et on va regarder ben, le livre d'Esdras et le livre de Néhémie. Voilà ce qu'on nous dit dans la Bible à propos de cette époque. Et si vous regardez bien, la manière d'écrire l'histoire dans Esdras et Néhémie est assez différente de celle du Pentateuque. Et alors, on fait des études sur la manière dont la Perse était gouvernée. Et dans le cahier évangile numéro 106, vous avez, au début, à la page 10, Darius Ier, qui règne de 521 à 486, est l'organisateur de l'Empire perse. Il établit 23 provinces ou satrapies dans la Transeufratène. La Judée ne représente qu'une toute petite partie de cette satrapie. Jérusalem n'est plus qu'une bourgade partiellement ruinée, dépourvue de remparts. Plus rien du tout. Grâce à la politique de liberté religieuse de Darius Ier et sous l'impulsion de Zorobabel, qui est un ancien descendant de la royauté d'Israël, le temple sera reconstruit et achevé en 515. La Judée constituait-elle dès la fin du 6e siècle une province? La réponse est incertaine. Ce n'est qu'au 5e siècle que l'on voit apparaître le nom de Judée sur des jarres ou sur des sceaux. La province de Judée était alors de taille limitée, s'étendant sur un territoire de 30 km de rayon autour de Jérusalem. Un petit truc de rien du tout. Je vous donne une petite carte. Et alors, on découvre un beau texte que vous avez d'ailleurs dans vos pages. On découvre un beau texte dans le livre d'Esdras au chapitre 7. Page 9 dans les papiers que je vous ai remis. Et ceci, c'est M. Frey. Qui a été surtout le chercheur qui a poussé la question de ce côté-là. Il a mis en lumière la politique perse d'octroi d'une semi-autonomie aux provinces conquises, ce qui n'avait pas existé autrefois du temps des Assyriens ou des Babyloniens, politique sanctionnée par des documents juridiques, des autorisations impériales. Est-ce que le Pentateuque ne serait pas une expression de l'autonomie du peuple, du décret d'autonomie ou de semi-autonomie qui lui aurait été laissé? N'est-ce pas le document majeur qui peut être résumé, le document majeur qui dit le droit d'Israël a existé grâce au Père? Voici la copie de l'acte officiel que le roi Xerxès donna au prêtre scribe Esdras, scribe des paroles ordonnées par le Seigneur et de ses lois au sujet d'Israël. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, prêtre des scribes, versé dans la loi du Dieu des cieux, salut, etc., etc. Voici mes ordres. Dans mon royaume, quiconque parmi le peuple d'Israël, ses prêtres et ses lévites et volontaires pour aller à Jérusalem, qu'il aille avec toi. Non. Une délégation qui part vers Jérusalem pour relever les murs de la ville et reconstruire le temple. En effet, tu es envoyé par le roi et ses sept conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais les connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Bien que ce document est écrit non pas par Darius, mais par un Israélite. Hein. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Donc est-ce qu'il ne s'agirait pas, au fond, dans ce Pentateuque, d'un document quasi-officiel, document d'archive, mais qui ferait état d'un firmament, c'est-à-dire d'une autorisation impériale? Et on dit que l'hypothèse a été développée, notamment par Blum, pour obtenir une autorisation de présenter aux autorités perses une loi unique. Et, dans ce petit commentaire de Artus, il nous dit que effectivement, ce qui existait à l'époque, c'est à la page 12 du cahier évangile 106, milieu deutéronomistes et milieu sacerdotaux bénéficient d'un même héritage traditionnel. Même si on est de droite ou de gauche, on fait partie du même pays. Les traditions narratives et législatives pré-exiliques qu'ils réinterprètent et mettent en forme. Voilà. C'est ça qu'ils ont à faire. Remettre en forme une tradition. L'adapter au goût du jour. Et tout le problème de la modernité qui se trouve déjà présent ici. La réflexion religieuse post-exilique débouche ainsi sur un travail de composition littéraire dont le Pentateuque, dans sa version définitive, porte la marque. Comment expliquer cependant que les textes émanant de ces deux groupes concurrents, possédant chacun une réelle spécificité théologique, ne constituent pas des œuvres littéraires distinctes, autonomes, mais soient au contraire rassemblées dans une unique Torah? Intéressant ça. Comment la droite et la gauche sont-elles unies? Un facteur extérieur habituellement nommé autorisation impériale perse pourrait avoir joué un rôle dans ce processus. Vous voyez, il est prudent. Esdras 7, ce que je viens de vous lire, décrit en effet l'autorisation donnée par Artaxerxès à Esdras d'établir en Judée un droit particulier en faveur des Juifs. Et c'est ce que vous retrouvez dans les livres d'Esdras et d'Éhémie, une sorte de regroupement de la société autour du temple et des lois et du culte, mais avec grande liberté laissée au peuple, où il y a de fait une convivence entre les deux courants. Ainsi l'initiative perse a conduit faudrait quand même mettre encore un bémol. Les différents groupes religieux coexistant en Judée après l'exil à s'accorder pour définir un texte normatif, c'est-à-dire canonique, une règle de vie, ayant force de loi pour les Juifs de Judée. Elle a ainsi servi de catalyseur à la rédaction d'une unique Torah, dans la constitution de laquelle la quête d'identité religieuse du peuple représente sans nul doute un autre facteur déterminant. Quel est le rapport entre justement ce travail politique, social et politique, et le travail religieux? Le livre de Néhémie nous permet par ailleurs de mettre en lumière une autre évolution dans la manière dont est utilisée la Torah dans la communauté juive de Judée. On lit en effet en Néhémie 8:8, c'est le grand passage où vous trouvez la lecture officielle de la Torah, du matin au soir, avec des traducteurs parce qu'on ne comprend plus l'hébreu. On parle araméen. Relatant la proclamation solennelle de la Torah par Esdras, et il disait dans le livre de la Torah de Dieu, traduisant et donnant le sens. Et il comprenait la lecture. Il faut faire des homélies pour qu'on comprenne la lecture. Ainsi la Torah forme un livre écrit, clos, canonique. Il n'est pas possible de modifier, mais qui appelle traduction, traduction araméenne sans doute, puisque l'hébreu n'est plus connu de tous à cette époque, et interprétation. Commentaire. En d'autres termes, la Torah écrite appelle à une Torah orale. Tradition interprétative vivante, dont Esdras représente dans la tradition juive le premier maillon. Voilà donc où en sont les choses pour le moment. Pardonnez-moi, j'ai pris déjà 5 minutes de retour. Et alors nous arrivons simplement, et nous y reviendrons la fois prochaine, nous arrivons à la page 11, et je reviendrai, ou 11 bis, où je vous donne l'état actuel, situation actuelle de la recherche. À travers tous ces noms, voici le schéma que vous trouvez, que j'ai repris d'ailleurs du cahier d'Évangile. Tradition, narratives anciennes, avant l'exil, pendant l'exil, après l'exil. Et tu sais, je vous dis, c'est l'état actuel des recherches. Je ne dis pas que c'est parole d'Évangile, mais je dis voilà, vous en savez.